Le 6 mars 2024, Apple doit se conformer à la directive européenne Digital Market Act et doit entraîner des changements assez radicaux sur sa plateforme iOS, notamment l'ouvrir à des magasins alternatifs d'applications, à d'autres navigateurs web et même accepter d'autres systèmes de paiement sans contact. Pour parler de l'économie des applis sur iPhone, on s'est adressé à des membres de la communauté iOS et plusieurs d'entre eux ont pointé de leurs événements UI Touch la même personne. Non mais il y en a un qui en parle vachement mieux que nous. Nous recevons donc sur dénonciation de ses pairs Jérôme Alves, Senior iOS Software Engineer, co-organisateur de la communauté Swift Toulouse, administrateur de la communauté Slack Swift Baguette et gérant du bistrot des tramways, du moins son homonyme, à Dijon. CPU carré petit utile. Jérôme, quand t'es-tu mis à coder ?
Alors, ça remonte à très longtemps, avant même que j'ai un ordinateur, pour ainsi dire, parce que j'avais un ordinateur, vous savez, des petits jouets VTech, oui. Où il y a des jeux du pendu, des synonymes et tout ça. Et il y avait un jeu, moi j'appelais ça un jeu, qui s'appelait Basic dessus. Mmh. Et du coup, dans le petit fascicule, il y avait des petits cours de Basic, des go-to et tout ça. Et j'avais commencé à coder là-dessus. Et après, un peu plus tard, j'ai eu un ordinateur, j'ai continué en basique, après HTML, etc. Donc, j'ai commencé vers 8-9 ans et je me suis jamais arrêté.
C'était une implémentation de Microsoft Basic, l'une des plus légères que je connaisse d'ailleurs.
Quelle fut ta première réaction quand tu as découvert l'iPhone ?
Alors, j'étais déjà fanboy Apple depuis 1 ou 2 ans, je vais dire. Du coup, j'attendais cette keynote avec impatience et bon, j'ai pas été déçu. Hein, j'ai été des étoiles plein les yeux. J'étais au lycée le lendemain. Il y a que moi qui en parlais. Personne ne comprenait. Tout le monde disait ouais, bon, regarde, moi j'ai mon Windows Phone SPV 500 qui fait déjà ça.
Le premier smartphone du nom, puisque c'était Microsoft qui avait introduit le terme justement smartphone par ce biais-là. Brique. Il s'est pris un coup de vieux avec une histoire de révolution en une nuit.
C'est un peu ça. La révolution a mis un peu plus de temps, mais c'est vrai que j'étais très enthousiaste. Oui.
Et depuis quand donc es-tu devenu développeur sur la plateforme iOS ?
Alors concrètement, j'ai commencé quand le SDK a été annoncé en 2008, donc une année après. Mais j'étais encore étudiant. Au début, je faisais des petites applications pour m'amuser. Il y avait un cursus programmation Mac dans mon école d'une ou deux semaines, je sais plus trop. Donc j'avais commencé à faire du Cocoa et de Objective-C par ce biais-là. Professionnellement, j'ai commencé fin 2010.
D'ailleurs, quels sont tes clients, directement le particulier ou tu es en prestation pour des entreprises ?
Non, j'ai toujours été directement chez des éditeurs, à part ma première expérience où j'étais dans une ESN et je faisais beaucoup de projets au forfait. Mais sinon, j'ai toujours été en CDI, jamais fait de freelance.
Question putassière, est-ce que tu développes aussi pour les Mac ?
Non.
Non. J'assume la blague.
J'en ai fait un petit peu pour des petits utilitaires pour moi, mais j'ai jamais fait pour.
Donc c'est jamais sorti jusqu'au niveau du demandeur et tout ça. Donc c'était t'es resté vraiment sur la plateforme mobile et associé quoi.
C'est ça.
Et du coup, tu as travaillé aussi sur l'embedded, par exemple sur l'Apple Car, sur l'iWatch ou sur l'Apple TV ?
Non, même pas. Dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, ça a toujours été très iOS, iPad. Mais j'ai jamais eu affaire de Watch, de TV, et encore moins de CarPlay.
Ça t'intéresserait à la limite d'essayer justement ces plateformes-là ?
Ouais, c'est assez plus naturel de. D'exporter les apps là-dessus. Bon, ça n'a pas été sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, mais au moins, oui, un petit compagnon Apple Watch, c'est pas très compliqué à faire, je pense. C'est une extension, donc c'est intéressant. Après, c'est encore une fois l'utilité.
Aussi la place, puisque pour tester les Apple Car, il faut un grand parking à côté.
C'est ça.
Et justement, tu n'as pas justement développé vers Mac, justement, parce qu'on peut adapter des applications iOS sur Mac maintenant ?
Oui, alors c'est assez limité. Par exemple, sur mes deux dernières expériences, Juste avant, j'étais travaillé chez Itch, donc c'est une application de VTC, donc sur Mac, ça devient très limité. Et là, actuellement, je suis chez Datadog. Pareil, on a une web app très complète. La version iPhone, c'est plus pour les ingénieurs qui sont d'astreinte, donc qui ont besoin d'un accès sur le pouce, justement, avant de devoir sortir un laptop. Donc pareil, le besoin n'est pas très intéressant sur Mac.
Du coup, est-ce que tu as une expérience sur l'autre plateforme, Android ?
Pardon ?
Est-ce que tu as une expérience sur l'autre ? Ah. Ok, d'accord, j'ai compris.
Non. Blague à part, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup mes copains et collègues d'Android. Mais personnellement, je n'ai jamais tenté.
T'as pas osé aller chercher l'Android Studio et de faire un petit truc quand même?
Non. J'ai dû le faire une fois par curiosité, mais même si c'est des technos assez proches mais différentes, ça refait un peu partir de zéro. Et je suis bien sur mon expertise d'iOS.
Ce qui veut dire que du coup, tu travailles pas sur React Native pour faire du cross-platform, d'accord?
Non.
Alors actuellement, quelle est la procédure pour proposer une application dans l'App Store? Je suis développeur débutant sur cette plateforme. On m'a demandé de faire une application pour iPhone. Comment je me démerde?
Alors déjà, il faut avoir un compte développeur Apple qui coûte $99 par an, qui permet d'accéder aux outils d'Apple, donc Xcode, la documentation, tout ça, et de pouvoir notamment compiler sur device. On peut faire sans cet abonnement, mais on peut pas compiler sur device, et on peut encore moins exporter sur l'App Store. Voilà. Et après, donc il faut soumettre l'application à l'App Store, à la validation d'Apple sur l'App Store. Donc, c'est un process qui prend 1 à 2 jours, quand tout va bien, et voilà.
Justement, l'Apple est connu pour faire des décisions de refus d'application parfois pénibles, pour rendre son App Store. As-tu des exemples, justement?
Alors, des exemples personnels, non. Peut-être les seuls refus que j'ai eus, c'était sur des mises à jour et c'était sur un manque d'informations, et en général, en répondant, rajouter une petite vidéo qui explique le fonctionnement de telle nouvelle fonctionnalité, ça passe. Mais non, les refus d'application, c'est les plus connus. Je crois qu'on va en parler un petit peu après, mais c'est les jeux. Il y a eu notamment le jeu Fortnite d'Epic qui a voulu proposer un système de paiement alternatif, donc qui allait à l'encontre des guildlands d'Apple de l'époque. Donc ça fait partie des refus plus connus. Après, il y a eu d'autres refus. Je sais qu'à une époque, une mise à jour d'Uber avait été refusée. Je sais plus exactement les détails, mais
je crois que c'était pour le paiement dans l'app aussi.
Ouais, c'était peut-être pour ça, ou peut-être je crois que des problèmes de privacy aussi, parce que l'application d'Uber traquait beaucoup de données, ça plaisait pas trop à Apple aussi.
Oui.
Non, voilà. Mais sinon, après, des fois, il y a des refus beaucoup plus simples. C'est l'application qui sert à rien. Voilà. Donc, Apple.
I'm rich.
Le droit de dire. Alors, il y a ça, mais il y a même en disant oui, il y a déjà plein d'applications qui font ça. Votre application n'apporte rien de nouveau. On n'en veut pas. Récemment, il y a eu aussi des applications de Hey, Hey.com. Donc, c'est une application de mail, une application de calendrier où on est obligé d'avoir un compte Hey pour se connecter. Sauf que l'application ne propose aucun moyen de créer un compte. Il faut passer par le web et s'abonner via le web. Et du coup, l'application, elle ne sert absolument à rien si on n'a pas déjà un compte Hey. Et pareil, ça ne plaît pas à Apple. Et d'ailleurs, pour l'application calendrier qui vient d'ouvrir, ils ont rajouté du coup un mode Apple Tribute dans le calendrier. Donc, quand on n'a pas de compte, on peut explorer le passé d'Apple, les événements marquants d'Apple dans leur interface de calendrier.
Très soft.
Et c'est passé. Ouais. Et c'est passé, du coup.
Ça reste soft, comme manière de dire on n'est pas d'accord sur le fait de passer par votre système de paiement.
Ça a duré plusieurs semaines quand même d'aller-retour. Parce que concrètement, il y a une guidelines dans les guidelines d'Apple qui dit que si on se connecte à un service pro externe, type Slack, Teams ou ce genre de choses.
Oui, il faut fournir un compte de test, je crois, un truc comme ça, non?
Il y a le fait de fournir un compte de test, mais il y a aussi le fait d'autoriser l'accès à un service pro. Mais dans le cas de Hey, ça plaisait pas trop parce que c'est pas techniquement un compte pro. Ils essayaient de passer, mais bon, Moi, je suis plutôt du côté de Hey, de ce côté-là, mais c'est marrant de la façon dont ils ont résolu l'affaire.
CCPU, l'émission Cas Petit Utile, et nous sommes avec Jérôme Alves, Senior iOS Software Engineer, pour parler de ce qui change dans le monde des portables d'Apple. Avant leur conformation au DMA, au Digital Market Act, donc qui arrive courant mars 2024, à combien marge Apple à l'achat de l'app ?
La marge historique est de 30% à l'achat de l'application. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Quand tous ces problèmes ont commencé à éclore, ils ont rajouté un palier pour ce qu'ils appellent les small business, donc pour les business qui génèrent moins d'un million de chiffre d'affaires, si je dis pas de bêtises. Et dans ce cas, la marge est de 15%. Et pareil, je crois qu'il y a une exception aussi pour les achats in-app passés la première année, où ça passe de 30% à 15%, quelque chose comme ça. Donc, en gros, c'est 30% ou 15% selon les cas.
Et dans les achats in-app eux-mêmes, quand on propose, je ne sais pas, une DLC, une extension, un changement de forfait ?
Les achats in-app, tout ce qui passe par App Store, c'est pareil, donc 30 ou 15%. Les seules choses qui ne sont pas concernées, c'est quand c'est soit de l'achat de biens physiques, type Amazon, ce genre de choses, ou de services non liés à l'application, donc typiquement une course Uber, une course de VTC, où là, Apple ne prend pas de commission. Mais sur les achats in-app, sinon, c'est sur les achats et sur les abonnements, c'est du 30 à 15%.
Ok, donc 30% pour l'achat de donuts sur le jus Simpson, par exemple.
Oui, voilà.
Ou les croquettes du chat qui râlent pas mal derrière.
A-t-on une idée de ce que rapporte Apple la vente d'app sur leur plateforme par rapport à leur chiffre d'affaires ?
Alors, c'est un peu compliqué de savoir exactement, puisque dans leur rapport financier, ils englobent ça dans une catégorie service, qui inclut les ventes d'apps, les services type iCloud, Apple Music, Apple TV. Ça englobe un peu tous les services qu'ils offrent et donc c'est un peu compliqué. Régulièrement, ils communiquent plutôt dans l'autre sens. L'argent qu'ils ont redistribué aux développeurs, c'est ils se prennent pas une commission, ils redistribuent l'argent.
Et on a une idée justement de la somme redistribuée annuellement, ce que ça représente en CA.
Là, je pense que il y a pas de chiffre depuis de nombreuses années.
Ah bon ?
Mais c'est pas étonnant.
Pas content de cette marge qui est imposée, Epic avait tenté de filouter en créant un magasin parallèle dans leur jeu Fortnite pour les achats in-app, ce qu'on appelle les DLC ou encore les attrape gogo, ce qui leur a valu une exclusion de l'App Store d'Apple en 2020. Epic est parti dans un procès forcément épique face à Apple à propos de son App Store. Alors, toi, en tant que développeur, en tant que spécialiste, en tant que fan de cœur d'Apple, t'en as pensé quoi ? Pas trop tôt, ou c'est quoi ces jaloux, ou encore, pourquoi n'ont-ils pas fait comme Netflix ?
C'est-à-dire comme Netflix.
Netflix, c'est-à-dire que tu peux pas t'abonner, en fait, depuis l'app Apple. Ouais. Tu peux sur Android, mais tu peux pas sur iOS.
Dans le cas de Fortnite, c'est compliqué parce que c'est de l'achat de consommables. Donc, oui, après, ils auraient pu faire ça.
Tu peux faire avec la Season Pass, par exemple.
Oui. Non, mais il y a toujours des solutions. Mais s'ils ne font pas, c'est qu'ils sont perdants aussi de ne pas le proposer au bon moment de l'expérience de jeu, quand la personne a vraiment besoin d'un pack supplémentaire. En ce qui concerne le procès, ce que j'en ai pensé... J'étais un peu au milieu parce que d'un côté, je comprends un peu les contraintes. Je suis assez satisfait des contraintes d'Apple sur le plan technique, de la sécurité, etc. Après, c'est vrai que le côté monopole où ils imposent un peu trop facilement leurs règles, c'est quelque chose qui est pas très sain non plus. Moi, j'ai un peu peur des répercussions que pouvait avoir ce procès, dans le sens où quand des personnes qui n'y connaissent rien viennent légiférer un domaine auquel ils ne connaissent rien, ça peut conduire à des règles un peu bizarres.
C'est un grand classique dans l'informatique.
Oui.
Après, je pense que Epic a raison de défendre son point de vue et Apple a raison de défendre le sien. Moi, je compare souvent ça au système de distribution. Dans le monde physique, une grande surface est libre de fixer son prix et ses marges sur ce qui est vendu. Et souvent, c'est plus de 30%. La seule différence, c'est que on peut distribuer dans plusieurs magasins différents, on n'est pas limité à un type de magasin. Donc je suis plus content du système de d'App Store alternatif qui permet peut-être de maintenir une sécurité. Mais voilà quoi, le side loading pur et dur comme il y a sur Android où on peut télécharger n'importe quoi sur n'importe quel site, j'aurais pas trop trop aimé ça.
C'est pas tant pratiqué que ça, hein, honnêtement. Sur
ouais,
Android.
Mais c'est voilà, c'est sur le plan de la sécurité, c'est assez mauvais, je pense. Mm. Mais voilà. Donc j'ai suivi l'affaire de pas trop près, mais voilà, j'ai suivi parce que c'était, il y a eu quand même des révélations assez intéressantes.
Ben justement, sur la plainte entre Epic et Apple, on a eu, ben, c'est un méga procès à l'américaine, et parmi les pièces à conviction exposées, ben, il y avait justement les boîtes mail professionnelles. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil et est-ce qu'on a appris des choses?
Ça remonte un petit peu, j'ai jeté un coup d'œil, voilà, je l'ai vu passer sur des sites d'actualité.
Mmh. Et du coup, le réflexe, c'est chercher le popcorn ou non?
Ouais, c'est un peu ça. C'est assez marrant de voir les mails qui s'échangeaient dans les directions d'Apple, notamment assez tôt, où ils se posaient la question de est-ce qu'ils allaient vraiment garder la marge à 30% éternellement, qu'ils aimeraient bien, mais que voilà, ils ne pensent pas que ça pourrait être tenable. Donc, on voit qu'ils ont quand même réfléchi à la chose assez tôt, historiquement. Mais non, après, ça a permis de mettre en lumière certaines pratiques. Donc, je trouve ça... quand même bien au final pour les développeurs.
Je tiens à signaler d'ailleurs que c'est une obligation hein, de présenter justement les emails, les boîtes à emails et tout ça, que les boîtes aux États-Unis n'y échappent pas vraiment dans ce type de procès, sur les procès économiques, et que en général ce n'est pas des leaks, c'est que c'est comme c'est envoyé aux avocats des deux parties, plus exactement c'est un avocat qui l'envoie au procureur, au juge et à la partie adverse ou le procureur en profite pour le ressortir. Le jugement a été rendu en avril 2023, justement, entre Epic et Apple. Mais en octobre, Epic a promis un deuxième round devant la Cour suprême américaine. Et certains prédisent un détournement de la loi RICO contre les pratiques mafieuses. Alors pour toi, là encore, popcorn ou tarte aux pommes?
Ouais, à ce niveau-là, ça devient tarte aux pommes, puisque c'est, je pense pas qu'on ait des révélations nouvelles. L'issue sera peut-être différente. Ça, je me prononce pas là-dessus. Mais je pense pas qu'on ait de nouvelles choses intéressantes à se mettre sous la dent.
Mmh. Popcorn ou tarte aux pommes n'est pas une nouvelle catégorie du Burger Quiz.
Bon, c'était quoi? Bon, c'était quoi la crainte d'Epic? Que le principe d'un magasin logiciel en monopole s'étende aussi au Mac et par effet d'aspiration à Windows 11?
Je pense pas, honnêtement. Je vois mal le Mac adopter un système comme iOS, où il y a un magasin unique comme source de téléchargement.
Honnêtement, c'est vraiment une crainte que l'on a quand on discute avec des journalistes professionnels dans le secteur informatique. Ils disent tous, on y va avec la convergence iOS.
Moi, j'y crois pas. En fait, j'ai toujours trouvé la démarche d'Apple assez prudente, où Apple a été très fermé au début, et c'est plus facile de partir d'un système extrêmement fermé et de l'ouvrir petit à petit. Mmh. Plutôt que de faire ce qu'a fait, par exemple, Google avec Android, où c'était très ouvert au début, et vous avez dû fermer un petit peu, petit à petit, pour défendre leur business ou des problèmes de sécurité, etc. Ouvrir iOS, c'est plus facile que de fermer le Mac. Fermer complètement le Mac, je pense pas que ce soit possible et ça sera pas accepté. Et puis, de toute façon, vu ce qui se passe sur iOS, je pense pas qu'ils s'aventurent à faire ça sur le Mac. Ils ont par contre profité de certaines technologies et idées pour porter cet écosystème sur le Mac. Côté sécurité, il y a quand même le sandboxing, la notarisation, ce genre de choses qui ferment un tout petit peu, mais pas trop non plus. Mais que ce soit le seul moyen de télécharger, honnêtement, je pense pas que ça viendra un jour.
Mmh. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jérôme Alves, Senior iOS Software Engineer, pour parler d'un petit peu de ce qui est en train de réformer dans l'église d'Apple en Europe.
Suite à l'entrée en vigueur de plusieurs jugements et mesures législatives dans le Digital Market Act en Europe, Apple s'est ouvert, mais à des conditions très limitées. Apple a prévu une certification des applications hors App Store afin de protéger les utilisateurs. Est-ce une mesure de protection bienvenue pour les développeurs et les utilisateurs?
Effectivement, ils ont, on va dire, ouvert la voie aux applications hors App Store pour se conformer à cette nouvelle mesure. Est-ce que la mesure est bienvenue? Je pense que c'est encore un peu tôt pour le savoir. Des réactions que j'ai vues un peu à droite à gauche, c'est que c'est pas exceptionnel comme condition parce que c'est quand même, ça reste assez limité d'un point de vue installation. En fait, il faut que l'app, ça peut passer que par un App Store autorisé par Apple. Et c'est des conditions assez assez importantes. Je crois qu'il faut 1 million, faut justifier d'un million de dollars sur un compte pour avoir le droit d'ouvrir un App Store. Donc, par exemple, moi, je peux pas ouvrir un App Store pour les applications françaises, par exemple, parce que je n'ai pas 1 million de dollars sur un compte. Mais non, voilà, c'est assez limité. Donc, à voir ce qui est proposé. Je crois que Steam et Microsoft sont déjà sur le coup pour préparer leur App Store. Ça peut servir, justement, on a parlé tout à l'heure, aux applications qui ont été refusées pour une raison X ou Y de proposer leur application sur un autre App Store. Mmh.
Est-ce que justement cette certification, ben justement, est-ce qu'elle apporte la même sécurité que si on était sur le store d'Apple ?
Sécurité, non, puisque techniquement, du coup, il y a plus la review d'Apple. En fait, il y a deux choses. Il y a sécurité sur le plan technique et sécurité sur le plan tout ce qui est scam, phishing et ce genre de choses. Donc même si c'est pas parfait sur l'App Store aujourd'hui, Apple est quand même assez essaie d'être assez regardant sur ce côté-là. Là où une application qui passera par un App Store alternative sera notarisée, donc c'est-à-dire qu'elle sera quand même certifiée par Apple. Et elle pourra être désactivée à distance si, par exemple, Apple s'aperçoit que ce compte Apple est frauduleux. Mais sur le contenu de l'application, ça ne sera pas aussi contrôlé. Moi, je me pose, par exemple, la question de tout ce qui est utilisation des API privées. Aujourd'hui, Apple, quand on soumet une application à l'App Store, ils ont des mécanismes pour tester l'utilisation d'API privées au sein d'un exécutable. Je me demande comment ça va fonctionner sur les App Store alternatifs qui, du coup, n'auront peut-être pas cette vérification. Donc, ça peut permettre, par exemple, de venir... Alors, je sais pas du tout, là, c'est des suppositions, mais peut-être trouver des moyens d'accéder au micro ou ce genre de choses sans passer par la validation d'Apple via des API privées. Donc ça, je ne sais pas encore comment ce que ça va ouvrir de ce côté-là.
Apple change sa commission pour les applications sur l'App Store. Est-ce que la nouvelle grille tarifaire est plus intéressante ?
C'est pas tant qu'il la change, c'est qu'il propose deux systèmes. Donc soit on reste sur le système, on va dire, historique, donc à 30%, soit on peut opter pour les nouvelles conditions qui permettent de distribuer son application en dehors de l'App Store, qui permettent de faire payer en dehors de l'App Store. Mais même si on fait payer en dehors de l'App Store, on peut continuer d'avoir une version sur l'App Store. Et effectivement, là, les conditions passent de 30 à 20% pour les achats in-app et pour le prix de l'application. Et passer 1 million de téléchargements, chaque nouveau téléchargement sera facturé 50 centimes. Donc, il se peut que les éditeurs répercutent ce coût sur les utilisateurs. Donc, il y aura moins d'applications gratuites. C'est pas forcément intéressant pour les gros éditeurs qui ont plus de 1 million de téléchargements, car du coup, il y a ces 50 centimes qui viennent impacter. Les revenus.
Aussi, Apple sera aussi obligé d'autoriser d'autres solutions de paiement dans l'achat d'applications, mais également avec le NFC. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Oui, j'ai vu ça. Ils sont obligés d'ouvrir l'utilisation du NFC. Je ne sais pas encore les situations qui vont en être faites. Je pense que ça va permettre d'avoir des solutions comme Google Pay en plus d'Apple Pay ou de pouvoir utiliser
les Paylib.
oui, peut-être pénible à voir.
Et je pensais également aux les sociétés de transport comme TCO, la ouais. RATP ou la RTM qui pourraient utiliser justement le NFC des iPhones comme ils le font avec Android pour leur propre ticket.
Oui, c'est possible. Après, je ne sais pas encore une fois si... parce que techniquement, il y a déjà une petite ouverture du NFC, mais il faut être dans l'application, il faut... passer par une pop-up explicite. Là, je ne sais pas si ça concerne le fait de pouvoir badger n'importe quel tag NFC sans avoir aucune confirmation à l'UI. Donc, il n'y a pas trop de détails encore, il me semble, sur cette partie-là.
Numérama a écrit que Apple a fabriqué un système pour faire fuir la plupart des développeurs. Est-ce que tu trouves le terme un peu fort ? Fuir.
Alors, je pense qu'Apple a fabriqué un système pour que les développeurs ne choisissent pas la nouvelle réglementation et restent sur la réglementation historique. Puisqu'encore une fois, le choix reste possible sur les développeurs de rester sur le système historique, donc tout dans l'App Store, 30%, puis 15%, aux mêmes règles qu'aujourd'hui. Et je pense qu'Apple, on parlait des réglementations un petit peu bêtes qui peuvent être faites en informatique. Je pense qu'Apple s'est conformé bêtement à cette réglementation. Ça permet de mettre aussi en lumière un peu les incohérences qui peuvent y avoir. C'est un pari. Je pense qu'ils ont essayé de montrer que à l'état, c'était pas quelque chose de très intéressant pour les développeurs et les utilisateurs. C'est plus pour que les développeurs ne choisissent pas le nouveau système plutôt que de faire fuir les développeurs. Puisque s'ils avaient dû fuir, ils auraient déjà fui la plateforme s'ils trouvaient les conditions vraiment inintéressantes.
Le fait qu'Apple tente de répondre de manière très restreinte à ces exigences légales, est-ce que ça risque pas de braquer les développeurs qui auraient pu amener des logiciels stars ultra attendus pour le casque Apple Vision Pro qui commence à être vendu aux États-Unis ? Que serait ce casque VR sans aucun studio majeur de jeux vidéo ?
Alors, c'est une bonne question.
On n'a que des bonnes questions.
c'est vrai.
C'est un running gag, tous les invités nous le disent.
C'est intéressant parce que si on regarde la communication d'Apple sur le Apple Vision Pro, elle est finalement très peu axée sur le jeu vidéo.
Oui, il parle surtout de casques de réalité augmentée, en clair.
Même pas, ils parlent de spatial computing. Voilà, c'est leur terme, c'est le spatial computing, c'est l'ordinateur spatial. Ils parlent nulle part de réalité augmentée, de réalité mixte, de réalité virtuelle. Ils parlent d'ordinateur, donc ils mettent en avant des applications Safari, Mail. Là, il y a Microsoft qui a sorti Word sur
Excel et Word devant soi, sous les yeux, c'est génial.
C'est ça. C'est un outil de. Ils présentent ça comme un outil de travail et pas un outil de jeu vidéo. Et d'ailleurs, quand on voit souvent les personnes qui jouent dans ces genres de jeux vidéo, qui oublient l'environnement qu'il y a autour et qui s'éclatent la tête contre un mur parce qu'ils sont dans un... Donc, je pense que Apple fait peut-être bien de restreindre là-dessus pour éviter de la mauvaise pub avec des casques qui s'éclatent contre les murs. Je pense que ça n'a pas forcément braqué les développeurs de jeux vidéo qui ne seront pas trop intéressés par l'Apple Vision Pro dans un premier temps. On a vu que YouTube... Et Netflix n'avait pas sorti d'application pour l'Apple Vision Pro. Ils sont même allés plus loin que ça. Et c'est qu'ils ont opt-out. Ils ont désactivé l'option de portabilité automatique de l'application iPad sur l'Apple Vision Pro.
Oui, parce que effectivement, n'importe quelle application sur iPad normalement est disponible dans l'Apple Vision.
Voilà.
C'était je sais plus quel Marquis. Là, j'ai oublié son nom. Ce YouTuber techno. Anglais qui a dit en fait il manque une application de cartographie et trucs comme ça, donc on peut soit par la vue web, soit par la vue iPad, mais il manque beaucoup de trucs, quoi.
C'est ça. Donc du coup,
donc eux, ils ont carrément désactivé l'intégration de l'app iPad. Ok,
c'est ça. Donc ils développent pas une application dédiée à Netflix ou à YouTube parce que le marché est encore tout petit, c'est compréhensible, qui désactive l'intégration iPad, soit ça marchait pas bien, et du coup, il y avait des coûts pour le faire bien marcher, soit c'est plus politique pour dire on veut pas en être, et voilà. Donc là-dessus, c'est un peu à la supposition de chacun.
Toujours sur l'impact de la mise en place du Digital Market Act, parlons du navigateur Safari.
Non, Dascritch, non, on n'a pas le temps, on sait qu'il n'est pas top et...
Bah oui, justement, maintenant que Chrome, Firefox et les autres vont vraiment pouvoir porter leur navigateur sur iOS, et pas uniquement le navigateur, mais aussi leur moteur...
Mais ils sont déjà présents.
Oui, mais avec le moteur de rendu de WebKit, qui entre nous est une sacrée bouse. Maintenant, ils vont pouvoir utiliser leur propre moteur, Chromium ou Gecko. À savoir si des versions sont disponibles hors Europe, du coup, de ces navigateurs. On voit que Safari, d'ailleurs, commence enfin à corriger des bugs qui sont ouverts depuis plus de 10 ans et qui faisaient hurler les devs sur la conformité des API standards. Donc, l'ouverture, en soi, c'est une bonne chose.
Alors, oui, l'ouverture est une bonne chose. Après, à voir ce qu'il y en est fait. Dans tous les cas, ça reste une ouverture assez maîtrisée. Je pense pas qu'on puisse facilement intégrer...
Il y a beaucoup de chaînes sur la porte.
Oui. Non, mais c'est... Je sais pas trop comment ça va être présenté, mais c'est... Bon, on va dire que c'est une bonne chose. On verra. Les utilisateurs choisiront.
Et Next Impact, qui avait fait un édito d'ailleurs, c'est Numérama, je ne sais plus lequel, qui disait qu'en fait, le problème, c'est savoir si les navigateurs vont exister. S'ils n'existent que pour l'Europe, le portage ne va peut-être pas se faire. Firefox tourne en natif sur iOS, mais effectivement uniquement en mode de dev depuis plus de 10 ans. Et le rendu est extrêmement différent du rendu Safari, et il y a vraiment beaucoup de choses en plus. Jérôme, je crois savoir que le 15 mars 2024, donc un mois après qu'on enregistre, tu quittes ton employeur pour devenir indépendant et créer tes propres applications. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, vous savez bien. Donc effectivement, après presque 15 ans de développement, à développer des applications des autres, je me lance enfin dans l'aventure de développer mes propres applications. J'ai jamais été trop impliqué sur des side projects ou ce genre de choses, parce que j'aime bien vraiment pouvoir m'impliquer à fond dans les projets. Et donc voilà, donc je tente l'aventure où je quitte complètement mon travail pour me lancer à plein temps sur des applications. Donc, vous l'aurez compris, ce sera du iOS, du natif, de l'App Store, de la Shine App Store et de l'écosystème Apple. parce que quand on est petit dev, c'est quand même assez pratique d'avoir tout ça à la disposition. Et facile à intégrer, mais qui sait, peut-être un jour je ferai mon App Store alternatif avec des applications en App Store.
Et donc Jérôme, mille merci. En plus, on te retrouve dans la communauté Swift, donc le langage de développement qui a pris la suite justement, puisqu'on a parlé en tout début d'Objective-C, sur la plateforme iOS et aussi sur d'autres plateformes. On le trouve aussi sur Mac, bien évidemment, et aussi sur des portages sur l'environnement Windows, Linux, Android et j'en passe. Jérôme, mille merci de ta disponibilité.
Merci pour l'invitation.
Et bien à toi, et au plaisir de se revoir.